Chapitre 4. Première dompteuse, souper à la baraque, valet de carreau, neuf de pique. Voici une histoire qui rappelle vaguement celle de la grande Catherine de Russie. Jean-Paul Samaillou, premier dompteur de la reine de Portugal et inventeur de la poutre insectivore pour les messieurs, les dames et les animaux, se trouvait avec sa ménagerie dans la ville de Saint-Brieuc, chef-lieu du département des Côtes-du-Nord. Il avait perdu depuis peu sa compagne qui était femme à barbe, incombustible, nécromancienne et sauvage. Saint-Brieuc est une ville grise et muette, entourée d'un océan de petits choux. Ses habitants sont doux et frais, comme le légume qui les fait vivre, mais ils dédaignent la bagatelle et ne vont jamais au spectacle. C'était en vain que les animaux féroces de Jean-Paul Samaillou rugissaient dans leur baraque établie sur la place du marché. C'était en vain que Jean-Paul lui-même énumérait dans son porte-voix les preuves d'admiration et d'amitié que lui avaient décernées les différents souverains de l'Europe. Les bancs graisseux de sa petite salle restaient vides, et au bout de 3 jours, il n'avait pas encore vendu un seul paquet de sa poudre insectivore. Un malheur ne vient jamais seul, comme il pliait tristement bagage pour aller à la recherche de rivages plus hospitaliers, l'essieu de sa voiture se rompit. Il s'agissait de relever à la force des reins le fond de la carriole pour passer dessous un nouveau moyeu. Jean-Paul Samaillou essaya, mais il était amolli par les chagrins du veuvage et la mauvaise fortune. Un soldat de bonne volonté ne fut pas plus heureux, un portefeuille échoua de même. Une jeune fille traversait la place, portant sur sa tête les fleurs du pays, une corbeille de choux si haute et si large que cela ressemblait à une montagne qui marche. La jeune fille s'arrêta pour voir le motif du rassemblement. Après avoir regardé d'un air de pitié le militaire, le portefeuille et même Jean-Paul Samaillou, elle déposa son fardeau, passa entre les deux roues et, d'un seul tour de rein, releva les planches faussées de la carriole qu'elle soutint tout le temps qu'il fallait pour remonter un autre essieu. Samaillou aurait pu lui donner de l'or, en faible quantité il est vrai, car sa caisse était basse. Il préféra lui offrir sa main et son cœur. Sans cet événement, la jeune fille, qui avait nom Bastienne, aurait vécu et serait morte dans les choux. Au lieu de cela, Jean-Paul, après l'avoir épousée devant Dieu sur la grande route de Saint-Brieuc à Rennes, la baptisa Léocadie, lui conféra le casaquin pailleté de la défunte et la nomma première dompteuse des principales cours de l'Europe. Ce fut un ménage modèle. Léocadie, qui était une belle personne malgré sa vigueur extraordinaire, ramena dans la maison roulante la bonne chance avec la gaieté. Elle rendit ce brave Jean-Paul si heureux qu'à la fête de Louis-Philippe en 1832, il put remplir en foire le rôle d'homme colosse et offrir au public le spectacle toujours attrayant de 150 kilogrammes de graisse bourrée dans une peau humaine. Quant à Léocadie, elle luttait à main plate avec son ours et portait son tigre comme un veau sur ses épaules. Elle aimait à s'exercer aux heures de récréation et Samaillou, pour sa santé, lui donnait volontiers la réplique. C'était alors entre eux de joyeux tournois où les coups amicalement échangés mais appliqués de main de maître augmentaient l'estime mutuelle que se portaient les deux époux. Un soir qu'il folâtrait ainsi après souper, Samaillou eut l'idée de jouer un peu avec les boulets ramés de 64 qui servaient aux exercices de fonte. On s'amusait comme des bienheureux, et Léocadie, riant à gorge déployée, lança un dernier coup si bien dirigé que Jean-Paul tomba avec un gémissement de bœuf. Ce fut la fin de la partie. Jean-Paul Samaillou ne se releva point. Il était bel et bien assommé. Léocadie, comme elle le dit elle-même à tous ses camarades de la foire, fut plus contrariée que lui, car elle ne l'avait pas fait exprès. Elle dépensa les yeux de la tête pour l'enterrement, et la justice ne se mêla même pas de l'aventure, tant il était avéré que ce pauvre Samaillou avait eu la tête écrasée pour rire. Au bout d'un mois, Léocadie composa sur l'événement une complainte tragicomique qu'elle chantait elle-même dans la baraque, en s'accompagnant à la guitare, car elle avait tous les talents. Au bout de 6 semaines, elle disait, avec une certaine amertume, « Jeu de main, jeu de vilain, il aurait pu m'en faire autant, c'est bête. » Elle était déjà consolée, et de la même manière que la grande Catherine dont nous avons parlé, non sans raison. Douée d'une rare sensibilité, elle laissa errer son cœur au gré de ses inclinations naturelles, et ne voulut point lier son sort à celui d'un autre époux. « Il pourrait arriver un accident, disait-elle, et ça donne trop d'embarras. » Par suite de cette impériale détermination, elle eut tour à tour une foule de premiers ministres qui ne s'appelaient, il est vrai, ni Poniatowski, ni Orlov, ni Potemkin, mais qui, jouant à peu près le même rôle, arrivaient et passaient selon le caprice de son excellent cœur. L'Empire prospérait cependant, et au mois de septembre 1838, nous retrouvons Madame Veuve Samaillou, installée avec sa ménagerie, toujours la première d'Europe, dans les terrains voisins de la place Valhubert où l'on allait bâtir la gare du chemin de fer d'Orléans. Son établissement, nouvellement réchampi, semblait un palais au milieu des baraques voisines et portait aux deux côtés de la galerie où se faisait la parade deux énormes affiches qui déclaraient hardiment que les animaux du jardin des plantes n'étaient que du petit bétail, à côté des bêtes féroces et curieuses que Madame Veuve Samaillou, première dompteuse, première somnambule et première chanteuse des cours de Portugal et du Nord réunies. Il était environ 9 heures du soir. Quelques pauvres diables de saltimbanques essayaient de battre la caisse et de monter un boniment pour le public rebelle qui ne venait pas dans ce quartier perdu. La baraque de Madame Samaillou, au contraire, fermait fièrement ses portes à l'abri d'un écriteau annonçant qu'il y aurait le lendemain jeudi grande représentation à l'usage des habitants de Paris, des voyageurs étrangers et de messieurs les élèves des collèges. L'intérieur de la baraque lui-même était solitaire et silencieux. Toute la troupe avait congé, à l'exception des gardiens de la ménagerie qui dormaient au-devant des cages. Une lumière brillait cependant à la croisée de la maison sur roue qui attenait à la baraque, et on aurait pu voir du dehors la forme véritablement athlétique de Léocadie passer et repasser derrière les carreaux. L'endroit où elle se démenait était d'un aspect assez original pour mériter une courte description. Cela ressemblait assez, par le peu de hauteur du plafond et par l'exiguïté des proportions, aux cabines des grands bateaux qui naviguent en Seine et dans lesquelles il n'est pas rare de voir une nombreuse famille manger, dormir, faire son ménage, en un lieu où le moins exigeant des ouvriers parisiens refuserait de coucher tout seul par crainte d'asphyxie. C'était un peu plus large pourtant et beaucoup plus caractéristique. Il y avait là de la prétention au luxe et une sorte de vaniteux étalage que contrariait un désordre sans nom. C'était un salon, car deux fauteuils en acajou flanquaient un petit canapé de bois peint recouvert d'une magnifique housse de perse à ramage. C'était aussi une cuisine, comme le témoignait un fourneau rivé à la cloison et sur lequel chantait une casserole munie de son couvercle. C'était une chambre à coucher, on voyait l'alcôve avec son petit lit, qui semblait incapable de contenir la maîtresse de séant, les robes plus ou moins fatiguées qui pendaient dans la ruelle, et la table de nuit avec ses accessoires effrontément démasqués. C'était enfin une salle à manger, puisque la table était dressée pour deux convives, et c'était par-dessus le marché un cabinet de toilette, comme l'affirmait le pot à eau, la cuvette, les peignes, les brosses et d'autres ustensiles plus intimes encore. Comme si tout cela n'eût point suffi pour encombrer un espace aussi exigu, un filet régnant au-dessous du plafond soutenait du linge, des paquets de guenilles pailletées, des légumes, des fruits, des bouteilles, des bottes, des chaussures de femme, une guitare et un vieux parapluie. Léocadie Samaillou, vaste comme une tour, mais leste et alerte, semblait fort à l'aise au milieu de ce tohu-bohu. C'était maintenant une femme de 35 à 40 ans, dont la figure, trop virile, gardait des restes de beauté. Son teint éclatait de fraîcheur, quoiqu'elle eût peut-être des nuances écarlates trop foncées, et ses petits yeux avenants riaient avec une franchise tout à fait communicative. Quoiqu'elle fût en ce moment office de femme de chambre et de cuisinière, son costume n'était pas dépourvu d'une certaine élégance. Elle avait un jupon de laine rouge, retroussé abondamment, qui craquait autour de ses hanches robustes. Une basquine de velours noir, frangée de paillettes, emprisonnait les surprenants trésors de son torse, et dans ses cheveux, qui étaient noirs et très beaux, un collier de perles fausses s'enroulait. Deux personnages, qui tenaient à la vérité très peu de place, étaient avec elle dans la cabine et semblaient flairer avec gourmandise la fumée de la casserole. Tous deux avaient à peu près le même âge, une quarantaine d'années, et le même aspect d'indigence. Mais là s'arrêtait la similitude. L'un d'eux, en effet, debout auprès de la porte, souriait d'un air avantageux en ramenant sur ses tempes deux mèches de cheveux jaunâtres qu'on eût dit graissées à l'aide d'un bout de chandelle. Il avait une redingote vert pomme neuve de ses boutons, un pantalon écossais percé aux deux genoux et des bottes sans talons dont les bouts se relevaient à la poulaine. Sa main gauche, aux ongles longs et noirs, tenait un chapeau gris tirant sur le roux dont les bords cassés tombaient en parapluie. C'était avec une fierté naïve qu'il portait ses débris, de même que sa figure plate et laide exprimait une fatuité enfantine. Il cambrait orgueilleusement ses jambes, qui étaient bien musclées, et le sourire qu'il adressait à Madame Samaillou n'aurait point été déplacé sur les lèvres de Don Juan. L'autre, au contraire, dissimulait ses jambes, vêtues d'un pauvre pantalon noir luisant, et montrait sa vigoureuse poitrine qui ressortait sous un gilet à manches également noires. Un tablier à bretelles, comme celui que portent les infirmiers, complétait son costume. Celui-là était assis humblement sur une chaise de cuisine et avait déposé à terre auprès de lui une gibecière qui semblait contenir un objet assez volumineux. « Je suis dans mon coup de feu, » disait Léocadie, qui allait de son fourneau à sa table. « J'attends quelqu'un dont je ne donnerai pas la visite pour la moitié de Paris. Chacun a ses idées, pas vrai ?»«
Ça, c'est certain, » répliqua l'élégant au chapeau gris. Et l'homme humble à tournure d'infirmier ajouta doucement, « Comme de juste. »
« En plus, reprit Léocadie, ça ne me paraît pas que nous pourrons faire affaire ensemble, parce que ma troupe est au complet pour le travail et pour la musique. Avec ça, qu'on ne gagne pas des mille et des cents au jour d'aujourd'hui. Mais j'ai le respect des artistes, et je ne vous ai pas fermé ma porte à cette fin qu'on ne puisse pas dire que la veuve Samaillou a renvoyé comme cela n'importe qui, sans avoir vu ce que les personnes ont dans l'œil. Comment vous appelez-vous, et quel emploi tenez-vous ?
Parle le premier à m'aider, dit modestement l'homme à la gibecière. Le dandy passa sa manche sur le feutre chauve de son chapeau gris et répondit, mon nom est Similor, assez connu dans Paris, mon prénom Amédée, comme le vieux l'a précisé. Je suis pour la danse des salons, avec tous mes brevets en règle, pour la canne, le bâton et les caractères, pose plastique, tableau vivant, grosse caisse, et si l'on veut, jeune premier dans la comédie. J'ai de l'œil, j'attire les dames, et je fais des avant-scènes.
Léocadie avait lâché la queue de sa casserole pour le regarder bouche béante.
« Drôle de tête, » dit-elle, avec son gros rire bienveillant et franc.
« Ah, tu fais des avant-scènes, toi, l'enflé. Il n'y en a pas chez nous. »
« Chez nous, » repartit Similor avec une imperturbable confiance, « j'amorcerai les petites bourgeoises en civil et les bonnes d'enfants sous l'habit militaire. »
Comme de juste, appuya l'homme modeste qui tourna sa tête pour se moucher discrètement dans le coin de son tablier. Il y avait de l'admiration dans la gaieté de Madame Samaillou.
« J'en ai vu de bien cocasses en foire, » murmura-t-elle, « mais ceux-là sont de première qualité. À ton tour, pharmacien, cause, ma poule.
»« Vous croyez plaisanter, patronne ?» répliqua l'humble compagnon de Similor. « Eh bien, vous avez mis dans le 500. J'ai pratiqué avec succès la pharmacie dont je garde l'uniforme, n'ayant pas eu depuis longtemps l'opportunité de changer ma garde-robe. » Moins célèbre qu'Amédée, qui plaît par ses manières brillantes, je suis plus sérieux que lui, j'ai aussi ma réputation dans la capitale. C'est la chance qui manque. J'ai essayé de tout, depuis l'agence des affaires jusqu'au bureau de placement et le commerce des contremarques. Si vous aviez quelquefois besoin de celui qui reçoit des gifles à la porte et des coups de pied en bas, j'accepterais la chose pour commencer. J'ai besoin de gagner pour moi et ma famille.
Ah, fit Madame Samayou, qui était retournée à ses fourneaux, tu as de la famille? Échalot soupira et répondit, pour laquelle, comme de juste, je me ferai saigner aux quatre membres dans l'intérêt de sa subsistance et de son avenir. Allez, je vous serai joliment utile dans votre ménagerie avec mes études spéciales, si quelqu'une de vos bêtes tombait malade. La remplacerais-tu? Tout de même, pour vous être agréable. Tu as l'air d'un bon garçon, toi, dit Madame Samayou, qui tira de sa poche une grosse montre d'argent. Mais je n'ai besoin de personne, et voilà l'heure de mon rendez-vous. Échalot étendit la main pour reprendre sa gibecière, mais Similor lui dit d'un ton de commandement, attaque la chose du lion marin et vivement. Échalot, obéissant, murmura, s'il n'y a pas d'autre ouvrage, la patronne, je prendrai sans répugnance la peau du phoque, ou je descendrai dans le baquet. Quoique votre dernier poisson n'a pas duré longtemps, à ce qu'on dit. Ça, ma vieille, répliqua Madame Samayou, qui était désormais impatiente et prêtait l'oreille à tous les bruits du dehors. Je n'en veux plus, rapport à la police. Et qui dit que c'est immoral de tenir un homme dans l'eau du matin au soir à manger de l'aliment cru? Le fait est que mon ancien lion marin est mort perclus à force de rhume de cerveau. J'y ai donc renoncé au nom de l'humanité, quoi que ce soit, un spectacle agréable qui plaît aux deux sexes et qui rapporte un joli bénéfice à la direction. » Elle écarta sans façon Similor pour ouvrir la porte et regarder sur la place. Et Similor s'approcha vivement d'Échalot. « Enlève-moi ça, lui dit-il, c'est un emploi sédentaire où on ne s'est pas foulé d'ouvrage. » La grosse a envie d'un lion marin pour corser son affiche, ça se voit. Dis-lui que tu manges du poisson faisandé avec plaisir et que de rester assis dans l'eau toute la journée, ça fait partie de ton tempérament, et demande 40 sous d'art. » À ces dernières paroles, les yeux du pauvre échalot brillèrent. « Ah, patronne, s'écria-t-il, je sollicite l'emploi, nonobstant les dangers. » Le chérubin se fait diantrement attendre, grommela Madame Sayadou, qui rentrait sa grosse montre à la main. Tout dépend de la nature, ajouta Échalot avec chaleur. Ma vocation, c'est l'amphibie. Eux-mêmes, en chéri Similor, ça lui est recommandé par son docteur. Léocadie n'écoutait plus guère. Elle donna un coup d'œil distrait à son fourneau et se planta devant un quart de miroir suspendu à la cloison pour rétablir sa coiffure un peu affaissée par les soins du ménage. En ce moment, et sans que personne n'y prît garde, Similor détacha un petit coup de pied à la gibecière. Il en sortit aussitôt un cri rauque, suivi de vagissements. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » s'écria Léocadie. Échalot tira de sa poche une bouteille dans le bouchon de laquelle était inséré un tuyau de plume. « Pardon, dit-il en ouvrant précipitamment la gibecière, c'est la famille en question pour laquelle j'accepte la position de veau marin auprès de vous dans votre administration. » « Un petit enfant, fit la dompteuse déjà attendrie. » Et Similor avait croisé ses bras sur sa poitrine. « On espérait qu'il serait sage, dit-il hypocritement, et qu'il ne nous obligerait pas à montrer toute l'horreur de nos infortunes privées. » Échalot tirait cependant du cabas une misérable petite créature, maigre, laide et palote, à qui il fourra le tuyau de plume dans la bouche. « Ça lui remplace pas le sein de sa pauvre mère, dit-il, les larmes aux yeux. Il n'en fallait pas tant pour faire battre le cœur herculéen de Locadie. » Dire que je n'ai jamais pu avoir un oiseau mignon comme cela, fit-elle sincèrement émue, ni avec Samayou, ni par la suite. Il n'a donc plus de mère ?
Elle est au ciel, répondit Échalot.
Et c'est vous le père ?
Dans l'ordre de la nature, non, c'est Amédée, ici présent. Mais j'en ai quelques-uns des droits pour l'avoir nourri, de mon propre lait, toujours à mes frais, dans les circonstances de la plus extrême débine. Je ressentais une attache platonique pour la mère, mais jamais de jalousie envers Similor, plus heureux que moi. Elle avait un bon état, elle allait rire avec les invalides sur l'esplanade. Un seul défaut, la boisson, ça l'a tuée. J'espère que du haut des Champs-Élysées, elle voit ce que je fais en faveur de son orphelin, resté seul sur la terre ici-bas.
Ça a beau être vilain comme tout, dit Léocadie, qui regardait boire l'enfant, ça intéresse, ça deviendra peut-être un gaillard.
Échalot embrassa le petit avec une tendresse de mère et dit en le berçant « Comme de juste, il a de qui tenir. On le destine, Amédée et moi, à la carrière du théâtre, mais faut subvenir à sa frêle existence, et si vous vouliez m'accorder l'emploi fixe de votre poisson... »
« Avec la bonté que vous auriez, interrompit Similor, de nous procurer une faible avance, non pas pour nous, mais pour la nourriture de l'innocent. »
Madame Samaillou, qui s'était baissée, se redressa tout à coup sur ses fortes jambes, et du bond qu'elle fit, toute la baraque trembla. Elle s'élança impétueusement vers la porte.
« Ah, c'est l'amour !» s'écria-t-elle radieuse. « J'ai reconnu son pas après 2 ans d'absence. »
Vous autres, ajouta-t-elle en courant vers le fourneau, si mon fricando a brûlé, que le diable vous emporte avec votre singe. Ah non, le ragoût embaume. Allons, vous êtes de braves garçons.
Le mioche est gentil.
Elle fouilla dans sa poche où était sa montre avec quantité d'autres objets, et en retira une pleine poignée de gros sous.
Tenez, reprit-elle, je suis contente, il faut que tout le monde en ait sa part.
L'artiste est comme ça, le cœur sur la main.
Vous reviendrez me voir, on vous casera si on peut,
mais pour le moment, place nette, voilà le bijou, filez !»
Joignant le geste à la parole, elle les poussa dehors si énergiquement que Similor dégringola un peu sur les reins l'escalier en planche de la galerie. Au même instant montait un beau jeune homme qui portait l'uniforme des officiers de sa fille. Léocadie descendit à sa rencontre, le saisit par la taille et l'enleva dans ses bras jusqu'au milieu de la cabine en disant avec une tendresse folle
« Ah, Maurice, mon chéri de Maurice, mon fils, mon Dieu, mon tout, ah, ça fait mal d'avoir trop de joie. Ah, je lève encore 100 livres à bout de bras, sais-tu. Eh bien, mes jambes tremblent, mon cœur s'en va, et je pense bien qu'on est comme ça quand on va s'évanouir sans connaissance. »
Nous avons déjà entendu ce nom de Maurice à l'estaminet de l'épicier, cabinet de l'entresol, dans la bouche du bandit Picpus, rendant ses comptes à Toulonnais l'amitié. C'était vraiment un beau soldat que ce Maurice et son uniforme de sa fille lui allaient à ravir. Il pouvait avoir 25 ans, sa figure riante et hardie portait les traces du désert africain, sans avoir perdu pour cela sa délicatesse native. Son teint avait bruni jusqu'à prendre une nuance complètement bistrée, mais il n'avait point grossi, et ses tons de cuivre mat allaient bien à la finesse virile de ses traits. Il avait le front haut sous ses cheveux blonds coupés ras. Son nez aquilin, taillé selon de vives et tranchantes arêtes, relevait ses narines à la moindre émotion. Sa bouche était ferme, nette, singulièrement douce dans le sourire, mais sévère aussi à l'occasion, en quelque sorte rembrunie par la courbe énergique de son menton. Ses yeux noirs brillaient et brûlaient, protégés par des cils soyeux comme ceux d'une femme, et c'est à peine si le duvet de sa moustache naissante ombrageait suffisamment sa lèvre supérieure. Il était grand avec cela, gracieux dans sa taille, souple et bien prise, dont les moindres mouvements annonçaient une remarquable agilité. Ah, « Je vous préviens, maman Léo, dit-il en rendant de bon cœur l'accolade de la dompteuse, que si vous me serrez comme cela, je reprends ma démission pour retourner en Afrique. Heureusement que les Arabes n'ont pas le poignet aussi bien attaché que vous, sans quoi je n'aurais pas eu le plaisir de vous revoir. »
« Ah, car tu les as frottés de près, n'est-ce pas, mon Maurice ?» s'écria la bonne femme, dont la voix était douce comme un solo de clarinette. « Ah, j'ai lu tout cela sur les journaux. Et figure-toi, je ne te reconnaissais pas dans les premiers temps. Tu nous avais caché ton nom, méchant que tu es. »
« Ah, dame, fit Maurice, pour entrer dans la cage du cirque et gigoter sur le trapèze américain.
« Ah oui, tu méprises bien l'État maintenant. »«
Pas trop, puisque me voici chez vous, ma grosse maman. »
« Ah, c'est vrai, mais, ajouta-t-elle en soupirant, ce n'est pas pour moi que tu es chez moi. Tu voudrais déjà que je te parle d'elle, sans cœur. »
Le jeune officier l'embrassa encore en disant, « Vous êtes bonne comme du bon pain. Oui, pourquoi vous le cacherais-je, puisque vous le savez si bien. Je viens vous parler d'elle, je ne songe qu'à elle. Je l'aimais bien autrefois, n'est-ce pas ?»«
Tu ne l'aimais que trop, fit Léocadie, dont la poitrine se souleva en un vaste soupir. Ah, je l'aime 100 fois plus maintenant, je l'aime 1000 fois plus, et je viens à vous sans crainte, car mon cœur me dit qu'elle ne m'a pas oublié. »
Madame Samaillou le regarda avec surprise.
Ton cœur, répéta-t-elle, tu n'as donc pas reçu ma lettre?
« Je n'ai rien reçu, répondit Maurice, mais je ne sais rien d'elle, sinon ce que je savais lorsque j'ai quitté votre maison pour m'engager soldat, parce que je me trouvais séparé d'elle, parce que, et comme j'en avais le pressentiment, au lieu d'appartenir à une pauvre famille, elle était l'enfant de parents nobles et riches qui l'avaient recherchée, qui l'avaient retrouvée et qui étaient venus la réclamer. » Te voilà tout pâle, murmura Léocadie, rien qu'en pensant à cela. Ah, comme tu l'aimes, Maurice. Sans elle, dis, m'aurais-tu aimé un petit peu? Maman Léo, répliqua gaiement le jeune officier, vous n'avez que ce défaut-là, mais il est gros. Vous savez bien que je vous aime comme un fils. Ah, ne dis pas cela, interrompit-elle en lui mettant la main sur la bouche. Ça me vieillit, trésor. Comme un neveu. Avec cela que les neveux sont tendres. Non, comme un petit frère chéri, c'est réglé. As-tu faim? Te souviens-tu de mes fricandeaux à l'oseille? Ah, moi, je n'ai pas oublié tes goûts, et dès que j'ai su que tu allais venir, je t'ai mijoté une rouelle qui serait digne des dieux de la fable. Avec cela, une jolie salade, du raisin de Fontainebleau, du fromage de Brie, et ce petit Mâcon vieux, tu sais... J'aurais peut-être faim, maman Léo, dit Maurice, car je n'ai pas bien vécu depuis quelques jours, mais auparavant j'ai besoin de savoir, ne me faites pas languir, je ne vous en demande pas long, dites-moi ce qu'elle est, où elle l'est, et si elle m'aime encore. Léocadie prit sa casserole et en vida le contenu dans un plat. Nous allons donc pouvoir souper tout de suite, répondit-elle d'un air malin, car il ne me faudra pas beaucoup de temps pour répondre à tes questions. Ce qu'elle l'est, elle est une grande demoiselle, nièce de duchesse ou de marquise, je ne pourrais pas le dire au juste. Où elle l'est, je n'en sais rien, mais elle te l'apprendra elle-même. Si elle t'aime encore, oui, à la folie, car c'est de la folie, dans la position où elle l'est, de quitter l'hôtel de sa tante le soir en fiacre pour venir chez madame Veuve Samayou, tout exprès pour causer du maréchal des logis Maurice Pagès. Elle a fait cela, s'écria le jeune officier, qui se jeta à son cou. Oui, mon lieutenant, j'ai dit maréchal des logis, parce que la dernière fois qu'elle est venue, ni elle ni moi ne savions que vous aviez l'épaulette. Peut-on servir? Maurice essuya la sueur de son front, et dit en appuyant la main sur son cœur. Ah, servez, maman Léo, ceux qui prétendent que la joie coupe l'appétit sont des menteurs. À table, je vais manger comme un de vos tigres. En un clin d'œil, le souper fut servi, et Léocadie, qui, une fois assise, tenait tout un côté de la table, commença prestement à découper. « Ah, voilà, vit-elle, c'est le morceau de gauche que tu préfères. À chaque fois que je m'en servais une tranche, je pensais à toi, et je me disais, il n'en a peut-être pas de si bien rissolé là-bas au fond des déserts. Le trouves-tu bon ?»« Délicieux, repartit Maurice, la bouche pleine. » « Eh bien, pendant que tu manges, mon chéri, tu me laisseras bien parler un peu de ce qui est le cadet de tes soucis, c'est-à-dire de toi-même. Pourquoi as-tu donné ta démission, puisque tu n'avais pas reçu ma lettre qui te disait de revenir au galop ?»« Parce que je n'avais pas besoin de lettre pour avoir le diable au corps, maman. Je voulais la revoir à tout prix. Je serais devenu enragé là-bas. » Ah, c'est toujours comme ça que j'ai toujours rêvé d'être idolâtré, soupira madame Samayou. « Combien de temps as-tu été officier ?»« 3 jours. Je n'avais tant travaillé que pour avoir mon grade, et je ne désirais mon grade que pour gagner le droit de donner ma démission. Mes chefs m'en ont dit assez, et de sévère, mais j'aurais passé par-dessus le corps du maréchal pour revenir à Paris. » Léocadie lui versa un grand verre de vin. « C'est étonnant, dit-elle. Ça me fait plaisir et peine de t'entendre parler ainsi. Et pourtant, je me raisonne, va. » Je suis un peu plus puissante que toi, en plus de l'âge qu'il y a de trop, tandis qu'avec la fleurette, vous feriez une vraie paire de jolis cœurs. Mais comme c'est ça, hein, donner sa démission au bout de 3 jours, après avoir gagné son grade en 2 ans, sais-tu que pareille chose ne s'est jamais vue? Il n'y avait que la Mauricière pour s'être mis si souvent que toi dans les rapports et dans les journaux. Quand on se manie de même, c'est bien plus court que de passer par l'école de Saumur. Ah, ça te va un peu crânement, dis donc, cette tape de soleil que tu as sur les joues. Ah, moi d'abord, les officiers blonds qui se basanent à Alger, j'en croquerai. Une autre tranche, maman, interrompit Maurice. Ah, Cupidon, va, s'écria-t-elle avec un fougueux élan d'enthousiasme, c'est une déesse de l'Olympe qu'il faudrait pour être digne de toi, et j'en ai composé assez de strophes en vers sur l'ivresse de la tendresse d'amour au point du jour, que je ne pouvais pas m'en guérir le cœur en ta faveur. Je vais t'en chanter une petite, veux-tu, et qu'est-ce que ça te fait puisque tu manges? On reparlera d'elle après, sois tranquille. Elle se leva impétueusement et prit dans le filet qui servait de grenier la petite guitare placée entre les pommes de terre et le parapluie. Pendant qu'elle en resserrait les cordes lâchées, Maurice se dit, sur le ton de la clémence, « Chantez, maman, vous avez une fièrement jolie voix !» Ce fut comme un tonnerre langoureux qui éclata dans la petite cabine. Les yeux au ciel et le sein agité par un orage, Léocadie se mit à rugir sur l'aide fade d'une romance passée de mode, la poésie suivante qui n'était due qu'à sa propre inspiration. Les lions et les tigres est plus facile à dompter que le jeune militaire dont mon âme en soupire. Il est séduisant par toutes ses qualités, mais ça lui est égal que je souffre le martyr. Ah, bravo, s'écria Maurice, c'est stylé. « Tu ris sans cœur, » répondit Léocadie. « N'empêche qu'il y a des gens qui s'y connaissent et qui m'ont dit qu'on aurait bien fait de la faire imprimer pour les marchands de musique. » Elle reprit avec moins de vigueur mais plus de sensibilité. « Ah, puisse mes bêtes féroces un jour me dévorer, plutôt que de continuer dans un pareil supplice. On ne souffre pas longtemps à être mangé. » Et c'est pour toujours que mon bourreau est Maurice. Bravo, 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 fit de nouveau le jeune officier. Mais c'est assez pour une fois, maman. Encore une tranche. Je voudrais être à la place du fricandeau, puisqu'il a su te plaire, murmura Léocadie en mettant la main au plat. Mais je ne veux pas me rendre à charge par mes plaintes mélancoliques. Assez de guitare, quoiqu'il y ait encore 19 couplets, tout aussi soignés les uns que les autres. Je te disais donc, Bibi, que dans les premiers temps, je ne te reconnaissais pas sur les journaux, à cause que tu nous avais dissimulé ton nom de famille. Mais tous ceux qui s'appellent Maurice me tirent l'œil quand je lus dans le journal du commerce la première diablerie du safi Maurice Pagès, ça m'émoustilla. Quelques semaines après, nouveau tour de force, le caporal Maurice Pagès avait ramené à lui tout seul un demi-carteron de Bénizoukzouk. Après ça, ce fut une équipée du brigadier Maurice Pagès, et des gibelottes d'arabes et des mirontons de kabyles, tous fracassés par le même Maurice Pagès. Ah, ça m'agaçait à la fin, Mazette. Je me disais, si seulement mon petit agneau de Maurice, jusqu'au moment où je reçus ta première lettre signée Maurice Pagès, brigadier. Ah, nom d'un chien. J'ai nourri 3 numéros à la loterie pendant 14 ans, mais je n'aurais pas été moitié si contente quand on m'aurait annoncé la sortie de mon terne. Le jeune lieutenant lui tendit son verre vide en disant, puisque vous êtes la crème des femmes, maman Léo. « Ah, c'est bon, la lettre ne parlait guère de moi, mais elle bavardait beaucoup d'elle, et je ne pouvais pas répondre à tes questions, puisqu'en ce temps-là, je n'en savais pas plus long que toi. »« Et maintenant ?»« Ah, maintenant, ça a changé. En es-tu au café ?» Maurice repoussa son assiette et mit ses coudes sur la table. « Oui, maman, mais en double, s'il vous plaît. Ce que je veux, c'est mon vrai dessert. » Léocadie soupira bien un peu, mais elle l'allait en se résignant, car elle dit en posant devant lui la demi-tasse de porcelaine épaisse et le petit verre, « On va te le donner, ton dessert, et on n'en mourra qu'à la dernière heure, sais-tu. C'est du caillou que l'âme de ce garçon-là, pour tout ce qui me concerne personnellement. » Et pourtant, continua-t-elle en laissant couler par-dessus les bords de la tasse un abondant bain de pied, il y en a d'autres qui ne me trouvent pas encore trop déchiré. Je ne parle pas du premier venu. Non, ça m'est permis de choisir, si je veux, entre un pompier gradé, un savant du jardin des plantes, qui est gardien des bêtes, et un petit de l'entrepôt à lunettes vertes dans les 3-6. Tout le monde ne méprise pas Madame Samayou, monseigneur. Faut bien que vous sachiez ça. Cherche un peu un brin d'étoupe sous son corset, et tous ses cheveux tiennent sur sa tête. Ah, mais et ses couleurs ne sont pas au fond du pot de rouge. Quant à ses moyens de ressources, vois-tu, la baraque est toute neuve, la renommée est vieille, le grand tableau vient d'être repiqué, le tigre va comme un charme, à la suite de ce qu'on lui a percé un cautère, et depuis ton départ, le lion n'a perdu que 3 dents. J'ai une autruche mâle qui fait l'admiration des amateurs, et mon ours blanc des mers polaires excite la jalousie du gouvernement. As-tu confiance dans les fonds publics, toi? Moi pas, j'aime mieux mon Saint-Frusquin dans ma paillasse. Mais, jour de Dieu, quand je voudrais, j'aurai des rentes. Je te dis tout cela, mon mignon, parce qu'il vaut mieux faire envie que pitié. On t'offrait pas des lambris dorés, c'est vrai, on n'a pas des équipages tout reluisants, des diamants, des perles, ni des cachemires, mais... Elle s'interrompit brusquement et donna un maître coup de poing sur la table. « Mais tu ne m'écoutes seulement pas, reprit-elle, je ne suis qu'une imbécile. Ah, c'est drôle, comme les choses du sentiment, ça se cheville dans votre cœur. Ni, ni, c'est fini, tu as humé ton café, fais ta risette, amour, on va te donner le sucre à la fin. » Elle lampa d'une seule gorgée son verre de vin, à demi plein d'eau-de-vie, et continua plus tranquillement. Voilà l'histoire. C'était 3 ou 4 jours après ta première lettre. J'étais toute seule dans ma chambre, quoiqu'il ne manque pas de gens pour me tenir compagnie. Toc, toc, entrez. Qu'est-ce qui entra? Tu t'en doutes bien. Une robe de taffetas noir, un chapeau de velours noir, un voile de dentelle noire, mais là, plein la main et si épais de broderie qu'on ne voyait pas la frimousse. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, répondit une petite voix douce qui me fit penser à toi tout de suite, car je lui gardais rancune à cet enfant-là, c'est sûr. Mais va-t'en voir si c'est possible de ne pas l'aimer. Vous qui? Que je demandais pourtant. Elle se jeta à mon cou et m'embrassa comme pour du pain. Ma bonne madame Samaillou. Fleurette? Où est-il? Que fait-il? M'a-t-il oublié? Maurice, immobile, retenait son souffle. « Juste les mêmes questions que toi, » continua madame Samaillou. « Et si tu savais comme tu as l'air innocent à écouter tout cela, un jocrisse, quoi ?»« Allez, maman, vengez-vous, » dit Maurice, qui avait les yeux humides. « Mais parlez, je vous en conjure, parlez !»« Parlez, bonne Léocadie, parlez, » répéta madame Samaillou, en flûtant sa voix autant que cela était possible à la puissance de ses poumons. « La minette disait cela aussi, car vous êtes aussi nigauds l'un que l'autre. » Je parlais, parbleu, je savais que j'allais lui faire deuil, et ça rend méchant la jalousie. Elle ne connaissait rien de rien, elle te croyait encore à la baraque. Au premier mot, la voilà partie à pleurer comme une madeleine. Oh, mais elle pleurait, elle sanglotait, si bien que je la pris dans mes bras, ni plus ni moins qu'un petit enfant, et que je la calmais à force de baiser en lui disant « Allons, allons, l'Alger n'est pas le bout du monde. Et si on me le tuait ? » s'écria-t-elle. Dame, que je réponds, ne pouvant pas partager entièrement tous ces enfantillages-là, ça fait partie de son état pour le quart d'heure, mais jusqu'à présent ce n'est pas lui qu'on tue, c'est lui qui massacre les autres.
Ah, il est donc bien brave, Maurice, mon pauvre Maurice,
et un tas de bêtises pareilles. Quoi, nous sommes toutes les mêmes, celles qui pèsent 50 kilos comme ta donzelle, et celles qui ont du poids comme moi, marquant 237 livres à la dernière de Saint-Cloud. Est-ce que tu fumerais quelque chose avec plaisir? Mais ça, on ne peut pas être tous, s'écria Maurice. Maman Léo, ma bonne Léo, ne me cachez rien, je vous en prie.
Il n'y a pas égoïste comme les hommes, gronda la dompteuse. Tu bois du lait doux, toi, gourmand, et tu ne t'aperçois seulement pas que ça se change pour moi en vinaigre. Eh bien, le reste, parbleu, ça se devine assez, à savoir qu'elle est là-bas comme un bijou dans du coton, mais que les aises de l'opulence ne suffisent pas au bonheur. Il faut que l'âme ait ce que son cœur désire. Et qu'elle n'y pouvait plus résister, et que, bravant tous les périls, elle avait quitté le domicile de sa duchesse ou baronne pour monter dans un sapin et venir à la découverte.
« Mais a-t-elle bien dit qu'elle m'aimait ?» insista le jeune lieutenant.
« Jusqu'à la mort, » répondit noblement madame Samaillou, « et que ça ne se terminerait qu'à son dernier soupir.
»« Quel ange vous faites, maman ?» murmura Maurice. « Mais voyons, elle n'a pas été sans vous donner quelques renseignements sur elle-même. »« Ah, j'ai assez demandé, Bibi, ça me tenait de savoir les détails, car je n'avais plus entendu parler de rien depuis que le vieux monsieur était venu. Tu te souviens, celui qu'on appelait le colonel, qui avait l'air d'une momie d'Égypte à ressort. Je n'ai pas à me plaindre de lui, bien sûr. En emmenant Fleurette, dont il avait tous les papiers dans sa poche, il me fit un mignon cadeau. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Je vais te dire en bref tout ce que la petite m'a dit, et tu seras aussi savant que moi. Elle s'appelle maintenant Valentine de son petit nom.
Valentine, répéta Maurice, dont la voix s'était fait caresse.
Ça te plaît, c'est bon, Fanfan. Elle est heureuse, si elle voulait, elle n'aurait qu'à choisir, pour le bon motif, parmi un tas de jeunes marquis, tous avec des tilburys, cheveux de course, maison à la ville et à la campagne. Sa duchesse est riche comme un puits, son colonel ne compte que par millions, et elle m'a parlé d'un prince qui est son parrain ou approchant, destiné à remplacer Louis-Philippe en cas que les événements s'y montrent favorables. Ah, pour bavarde, elle est bavarde, la petite, et agitée, ne tenant pas en place, et ayant toujours l'air de penser à je ne sais quoi, tantôt les yeux allumés comme des lampions, tantôt l'air abattu, la mine fatiguée, qu'on dirait qu'il vient de lui arriver un grand malheur d'accident. Mais te voilà aussi, tout défait, amour, qu'est-ce qui te chiffonne ?
Si elle est si riche que cela, murmura Maurice.
Ah, voilà le hic, pas vrai ? Tout n'ira pas sur des roulettes.
Maurice resta un instant silencieux, puis il reprit. Vous m'aviez parlé d'une lettre ?
Elle est en route pour Oran, répliqua Madame Samayou, ta dernière résidence. Et si ça peut te remettre du cœur au ventre, je vais te dire que la petite ne doute de rien. C'est elle qui m'avait dicté la lettre, où je te donnais avis qu'il fallait revenir tout de suite au grand galop. Elle était encore plus détraquée qu'à l'ordinaire ce jour-là, la petite. Jamais je ne l'avais vue si pâle, et j'aurais juré qu'elle avait peur.
Peur de quoi ? Demanda vivement Maurice.
Elle ne m'a pas fait sa confession, Bijou, mais je ne suis pas plus bête qu'une autre, pas vrai. J'ai vu une pièce au théâtre de l'ambigu, dans les temps, pleine de dangers et de mystères. Oh, il s'en passe de drôle dans ce Paris. Après tout, nous ne sommes pas ici au greffe avec un propre à rien qui prend des notes pour vous faire du tort par la suite.
Ça m'a semblé qu'en t'écrivant de revenir, elle avait envie d'avoir quelqu'un pour la défendre.
Un monde de pensées se pressait dans la cervelle du jeune lieutenant. La connaissance qu'il pouvait avoir de la vie parisienne ne s'étendait pas très loin, mais il avait du bon sens, et il demanda « À quel genre de péril peut être exposée une jeune fille dans sa position ?»«
Cherche, » répliqua Léocadie. « Je ne pouvais pas lui arracher les paroles avec des tenailles, dis donc. Oh, tu en sauras plus long si elle se déboutonne avec toi, mais c'est déjà bien assez drôle, l'histoire de ces gens qui sont venus la chercher ici. Est-ce que tu te souviens d'un flâneur qui rôdait autour de la baraque, voici 2 ans à peu près, vers l'époque justement où la petite nous quitta, quelque chose comme un vieil étudiant ou clerc d'huissier sans ouvrage qui avait un drôle de nom, Picpus ?»
Oui, répondit Maurice, je me le rappelle vaguement, mais que nous importe celui-là ?
Ce n'est peut-être rien, fit la dompteuse, qui songeait, mais j'ai Martel en tête, et, jour de Dieu, je ne voudrais pas qu'il t'arrive à malheur. Ce Picpus est revenu aujourd'hui. Je n'y ai pas vu malice sur le moment, et j'ai trouvé tout simple qu'il m'invite à prendre le petit noir. On s'était connu, pas vrai, en société, le particulier a la parole agréable, des compliments par-ci, des politesses par-là. Mais ça me revient à présent parce que je te vois, c'est sûr qu'il était là pour me tirer les vers du nez. Il m'a parlé du temps, c'était le bon temps où Fleurette et toi vous ameniez à la baraque la meilleure compagnie de la capitale. Et qu'est-il devenu le petit ? Et qu'est-elle devenue la petite ? Et ci et ça ? Moi, je croyais que c'était pour causer, mais maintenant que j'y pense, l'idée me passe que j'ai trop causé. Quand je lui ai dit, à la bonne franquette, votre histoire à tous les deux, depuis tes victoires et conquêtes en Algérie, jusqu'aux escapades de la fillette qui court en fiacre pendant qu'on la croit dans son lit, et ses yeux brillaient comme des chandelles.
Je ne crois pas, repartit Maurice, qui ne partageait à aucun degré les inquiétudes de la veuve Samayou, je ne crois pas que le nommé Picpus fréquente de très près le monde où vit maintenant notre Fleurette. D'ailleurs, vous n'avez pu lui dire son vrai nom, puisque vous ne le savez pas.
C'est bon, grommela Leocadie, tant mieux si je me trompe, mais chacun a sa manière de voir. J'aurais mieux fait de me couper la langue avant de lui dire que tu étais revenu et que la fillette raffole de toi et que je t'attendais ce soir. De tout cela, Maurice n'écouta qu'une seule phrase. Il se leva triomphant et s'écria « Elle raffole de moi, voilà tout ce qui m'intéresse. Il se fait tard, maman Léo, et je demeure au bout du monde. Avant que je vous dise au revoir, vous avez encore un renseignement à me donner, le plus important de tous. Où pourrais-je la rencontrer ?»« Usu, répondit la dompteuse d'un air distrait. « Quand ?» Léocadie resta muette. Elle se versa de l'eau-de-vie, mais elle repoussa son verre sans le boire. « Quand elle viendra, parbleu, répondit-elle enfin, avec mauvaise humeur. « Vient-elle souvent ?» demanda Maurice, qui souriait, car il attribuait cette petite colère à un accès de jalousie. « Oui, oui, » répliqua Madame Samayou du même ton. « Elle est encore venue hier, disant qu'elle allait écrire elle-même, puisque tu ne répondais pas. « Et elle reviendra ?»« Demain. » « Alors, s'écria le jeune lieutenant joyeusement, c'est demain que je la reverrai. » Madame Samayou répondit sèchement, « Non, pas demain. »« Et pourquoi ?» fit Maurice toujours gaiement. Mais il perdit son sourire au premier mot de la dompteuse, qui dit avec brusquerie, « Parce qu'elle ne serait pas prévenue. Mon petit, je t'ai parlé franc, je t'ai dit qu'elle t'aimait, je le crois, j'en suis sûr. Mais nous autres femmes, vois-tu, depuis le temps de la mère Ève... » Elle s'interrompit et ajouta, « En un mot, comme en mille, la fleurette vient demain, c'est vrai, mais elle ne vient pas pour toi. » Maurice devint si pâle que Léocadie s'élança pour la soutenir. « eh bien, fit-elle, pas de mauvaise plaisanterie, garçon. Vas-tu avoir une attaque de nerfs ou une syncope d'évanouissement? Si j'avais su que les soldats d'Afrique étaient des demoiselles, j'aurais acheté un flacon d'alcali. Ah, j'ai dit la vérité, mais il n'y a peut-être pas de quoi fouetter un chat dans tout cela, il faut voir. » Elle aida Maurice à s'asseoir sur le petit divan. Ah, « Si c'est un coup de boutoir, maman Léo, murmura-t-il d'une voix changée, vous m'avez frappé trop fort. Si au contraire, votre accusation est sérieuse... »« Je n'ai accusé personne d'abord, » interrompit la veuve Samayou. « Ce rendez-vous dont vous avons parlé... » « Je n'ai pas parlé de rendez-vous. Ce n'est pas chez moi qu'elle donnerait des rendez-vous, et si elle l'en donne, je n'en sais rien, garçon. J'ai dit une chose, et je ne m'en dédis pas. Demain, elle ne vient pas ici pour toi. » « De la manière dont vous l'aviez dit, maman, soupira Maurice, prompt à se rassurer, j'avais compris qu'elle venait pour un autre que moi. » « Et tu avais bien compris, » dit la veuve, d'un accent ferme mais doux, « Sois homme un petit peu, Fleurette vient demain ici pour un autre que toi. »« mais alors c'est tout, il y a cela et pas autre chose. Mademoiselle Valentine a des secrets pour moi, tout en se servant de moi. En aura-t-elle pour toi? Je n'en sais rien, c'est ton affaire. Tu me reproches d'avoir parlé. Peut-être que tu as raison, mais je suis femme après tout, et je me connais. » « Ne te fâche pas si je me compare à celle que tu aimes. Les femmes comme moi ne sont pas les plus mauvaises des femmes. Ça ne les gêne pas de se jeter à l'eau ou dans le feu quand il s'agit de prouver leur dévouement. Essaye et tu verras si je dis vrai. » « Mais c'est égal, petit, » se reprit-elle en changeant de ton. « Justement parce que je me connais, je n'ai pas confiance dans les femmes. » Maurice la regardait d'un air épouvanté. Il demanda tout bas. « Vous l'avez vu ? Qui ?» « L'autre ? Jamais. Elle vous a parlé de lui ? Beaucoup. Ayez pitié de moi, je vous en prie, dites-moi tout. Mais c'est ce que je fais, mais tu t'évanouis à la première bredouille. »« Est-il jeune ? » demanda encore Maurice. « Assez, » répondit la dompteuse, « et beau comme Apollon, à ce qu'il paraît. »« Mais vous voulez donc me faire mourir ? » Le plus souvent, au contraire. Vous êtes deux, je t'aime mieux qu'elle. Si vous devez jouer ensemble à certains jeux que je sais bien, je veux te mettre en main les bonnes cartes, voilà tout. » Maurice inclina sa tête sur sa main avec une attitude d'accablement. « Sois homme un petit peu, » répéta la dompteuse. « Dans ce monde-ci, on n'a rien sans combattre, et mademoiselle Valentine vaut bien une bataille, c'est mon avis. « S'il ne s'agit que de tuer !» s'écria Maurice en se redressant. « Je ne sais pas, répondit la dompteuse, faudra voir. Si elle a quelque chose pour lui, et je le crois, ce n'est sûrement pas ce qu'elle a pour toi, j'en suis sûr. Mais je te l'ai dit, il y a là-dedans des mystères et des dangers, ça saute aux yeux. Je suppose que cet homme-là est dans les mystères. Je crois deviner qu'il partage le danger. Elle cherche un défenseur, pourquoi n'étais-tu pas là ?»
« J'y suis, » fit le jeune lieutenant. « Allez toujours. »«
À la bonne heure, tu te retrouves. On va pouvoir causer. Les hommes qui s'évanouissent, vois-tu, moi, ça me fait mal. Est-ce bien fini ?»«
Oui, c'est bien fini. »
Alors je commence. On ne vient pas comme cela le soir toute seule, derrière le jardin des plantes, sans risquer d'avoir quelque aventure. Ce n'est plus la chaussée d'Antin, dis donc. Passé 9 heures, le quai, depuis l'Hôtel Dieu jusqu'ici, ne sert pas de rendez-vous au Gant Jaune. Ah, mais non. J'aimerais mieux traverser la forêt de Bondy. Il y a donc qu'elle prenait ce chemin-là et qu'elle laissait son fiacre de l'autre côté de la place Valhubert, rapport au cocher qui ne devait pas savoir où elle allait. Tu n'as pas trop à te plaindre, en définitive, puisque c'est pour toi qu'elle venait. Eh bien, elle a eu son aventure, pas bien grosse à ce qu'il paraît, la moindre des choses. 5 ou 6 morveux qui voulaient l'affronter. Mais ça suffit pour poser un homme en jeune premier rôle. Maurice ferma les poings. « Attends qu'il soit là, pour prendre la garde du boxeur français, Bibi, » dit la dompteuse en riant. « Aurais-tu mieux aimé qu'on la laissât se débattre avec cette racaille ?»«
Et c'est l'homme en question qui la défendit, » murmura Maurice.
« Crânement, oui, et qui mit en fuite les rôdeurs comme une volée des tourneaux. Ça fait toujours bien dans une histoire. »
« C'était un inconnu pour elle ?» « Mais non, voilà le curieux. Quand je la revis, 2 ou 3 jours après, elle me dit « Mon secret n'est plus à moi. » Et après m'avoir raconté l'anecdote, elle ajouta « Il est impossible que Monsieur Remy Darks ne m'ait pas reconnu. »«
Remy Darks, » répéta Maurice, « je n'oublierai pas ce nom-là. »
« Tu auras raison, Fanfan, » répliqua Léocadie, « quand ce ne serait que pour le remercier de sa politesse à l'occasion. »
Car il ne dit pas un mot plus haut que l'autre à la petite. C'est comme cela qu'il faut s'y prendre, vois-tu. Il la reconduisit jusqu'à sa voiture, lui fit un grand salut et s'en alla.
Et elle l'a revu.
Et puisque c'est un des habitués du salon de sa duchesse, il n'a pas manqué de faire allusion à cette rencontre.
Tu reviens de chez les Arabes, toi. Il n'a pas seulement soufflé un mot. Fleurette me le disait encore hier. Avant la bagarre, il ne me parlait pas beaucoup, mais depuis, il ne me parle plus du tout. Il s'éloigne de moi avec un soin qui m'inquiète. On dirait qu'il a peur de me faire rougir.
Et plus il fait semblant de l'éviter, plus elle s'occupe de lui, pensa tout haut le jeune lieutenant.
Naturellement, c'est l'ordre et la marche de notre sexe.
Et si les choses sont ainsi, comment expliquer l'entrevue qu'ils doivent avoir demain ?
T'ai-je dit que cette entrevue dut avoir lieu entre Fleurette et Monsieur Remy Darks ?
Ne me cache rien, maman Léo, je vous en prie.
Je ne te cache rien, Fanfan, mon pauvre amour, et j'en suis à regretter d'avoir eu la langue trop longue, car tu as la figure comme si tu sortais de l'hôpital. Mais je ne peux pas t'en apprendre plus long que je n'en sais moi-même. J'ai deviné, bien ou mal, voilà tout. Une fois, il est échappé à Fleurette de dire devant moi « Pourquoi était-il en ce lieu à cette heure ?» Une autre fois, je crus l'entendre que ce Remy Darks, qui est procureur du roi ou quelque chose comme cela, laissant de côté ses mouchards et ses gendarmes, faisait tout seul dans la forêt de Paris une de ces parties de chasse où l'on peut laisser sa peau. Tu me diras que M. Vidocq est pour ces battus-là et qu'il faut laisser à chacun son métier. Mais le Remy Darks est piqué au jeu et il paraît qu'avec son air sévère, il est plus hardi qu'un zouave. Je ne sais pas le nom de l'homme qui doit venir demain et qui est déjà venu. Il a mauvaise mine et travaille pour de l'argent. J'ai vu Fleurette lui donner un billet de banque. Ce dont il est question dans leurs entreprises, je l'ignore, on m'éloigne, mais j'ai surpris un nom, un mot, Coyatier.
Ceci fut prononcé à voix basse et avec une sorte d'effroi. La pensée du jeune lieutenant avait tourné. Sa jalousie restait en éveil, mais un vif sentiment de curiosité le prenait à son insu et soulageait d'autant sa blessure. À mesure que le débit de la bonne femme devenait, malgré elle, plus confidentiel, Maurice écoutait plus avidement.
il avait entendu surtout avec une sorte d'anxiété le nom prononcé par le mystérieux visiteur à qui Fleurette donnait des billets de banque. En écoutant ce nom, il éprouva un pur et simple désappointement. « Ce nom de Coyatier ne me dit rien, » fit-il avec indifférence. « Ah, ça va te faire un autre effet tout à l'heure, » répondit la dompteuse, qui entr'ouvrit la porte et jeta un coup d'œil sur la galerie, comme si elle l'eût craint, les oreilles indiscrètes. « Ça n'est jamais bien sûr, » ajouta-t-elle en repoussant le battant, « de parler trop haut quand il s'agit de ces gens-là. Assieds-toi un petit peu, il y en a pour 5 minutes. Quand je t'aurai dit pourquoi le nom de Coyatier se prononce tout bas, tu en sauras juste aussi long que moi sur tous ces rébus qui me font jeter ma langue au chien. Et tu iras te coucher si tu veux. » Elle donna l'exemple en prenant place dans un fauteuil que son poids fit frémir. « Voilà, reprit-elle, la foire est un drôle de monde qui ressemble un peu à ma ménagerie. Il y a de tout chez nous, excepté pourtant des pairs de France et des banquiers millionnaires. J'y connais des honnêtes gens, parole d'honneur, mais on y bavarde beaucoup des machines de la cour d'assises. Ça occupe, ça amuse, on dirait que c'est du sucre. Et chaque fois qu'il y a une histoire de voleur, tout le monde ouvre l'oreille, si bien qu'on raconte tout haut, derrière les baraques, des faits divers qui écarquilleraient les yeux de la police. Si le nom de Coyatier ne te dit rien, celui des habits noirs est-il dans le même cas, bijou ? Ils sont en prison, voulut interrompre Maurice, j'ai vu ça dans les journaux. « Bon, bon, » fit la veuve Samaillou, « les journaux disent ce qu'ils veulent, et la préfecture laisse dire ce qui lui est avantageux. Là-bas, au camp de la loupe de la barrière d'Italie, il y a un chiffonnier qui ne boit que de l'eau, les jours où il n'avale pas ce qu'il faut d'eau-de-vie pour enivrer 6 hommes. C'est Coyatier. Attention, il fait peur à voir, avec sa tête hérissée comme une hure de sanglier. Il ne parle à personne, jamais, et tout le monde l'évite. » Même ceux qui ont quelque chose sous la conscience. Moi, je ne l'ai vu qu'une fois. C'est un rude homme. Il y avait ce jour-là un gamin qui pleurait parce qu'il avait cassé la bouteille dans laquelle il rapportait le vin de ses parents. Les passants l'appelaient imbécile pour le consoler. Coyatier lui mit une pièce blanche dans la main et voulut le caresser, mais l'enfant se sauva avec les 20 sous. Comprends-tu ça ? Voici 1 an, au brin de nuit, une pauvre minette se noyait sous le pont, ici près. C'était une fille trompée et abandonnée qui s'en allait parce qu'elle n'avait plus de quoi nourrir son petit enfant. Coyatier la retira de l'eau et l'emmena chez lui, où il la soigna pendant 1 mois sans rien dire à personne, excepté au médecin dont il payait les visites. Tu penses bien que la minette et l'enfant l'aimaient comme on adore le bon Dieu. C'est tout simple, pas vrai? Mais la minette se rétablit, elle alla un jour s'asseoir sur un banc au bout du boulevard de l'hôpital. Là, les gens lui parlèrent de l'homme à qui elle devait tout. Elle rentra, prit ses nippes et se sauva sans attendre Coyatier pour lui dire merci ni au revoir. Qu'en penses-tu? Je ne vais pas te faire languir, Fanfan. Cet homme-là n'a pas la lèpre, mais il est tout comme. Il gagne l'argent qu'il dépense avec son couteau. Il travaille pour les habits noirs. Et cela se dit tout haut, s'écria Maurice stupéfait. Non, répliqua Léocadie, cela se dit tout bas. Dans ce pays-ci, on connaît les argousins comme on connaît ceux qui les cherchent. Rien ne sort. Primo, parce qu'on déteste la police, et secondement, parce que chacun sait bien ce qu'il en coûterait pour causer. Il y en a qui passaient pour trop bavards et qu'on ne voit plus. À bon entendeur, salut! Les autres savent qu'on en meurt, dame, et ils se taisent. » Elle se leva la première et tendit la main à Maurice, comme pour lui donner congé. « Où demeures-tu » demanda-t-elle en arrivant au seuil. « Rue de l'Oratoire, Champs-Élysées, numéro 6, » répondit Maurice. « Est-ce à l'hôtel ?»« Non, l'Afrique n'est pas la Californie. Mes fonds sont très bas, et j'étais assez embarrassé en arrivant. » « Bête que je suis !» s'écria Léocadie avec une cordiale effusion. « Je n'avais pas songé à ça. Ah, tu m'as fait pourtant assez gagner d'argent autrefois. En veux-tu ?»« Merci, » répliqua le jeune lieutenant. « J'ai assez pour attendre jusqu'à demain, et peut-être que demain je reprendrai ma feuille de route pour Marseille. Je voulais dire que je suis forcé d'économiser parce qu'il me faut un costume civil, n'ayant plus le droit de porter l'uniforme de lieutenant. » « Et si tu t'en retournais là-bas, que serais-tu »« Soldat, le bonheur a voulu que j'aie rencontré une ancienne connaissance. Vous devez vous souvenir de ce gai vivant qui venait autrefois à la baraque et qu'on appelait le commis voyageur. Monsieur le coq, s'écria la dompteuse, quel joyeux luron! Il m'a procuré une petite chambre, garnie, pas chère, dans une maison qui n'est pas belle, mais qui a l'air bien tranquille. Ah, tout est donc pour le mieux, amour, dit madame Samaillou. La nuit porte conseil, réfléchis, et pas de coup de tête. Maurice fit un pas pour sortir, mais elle n'avait point lâché sa main et le retint d'autorité. Mon lieutenant, dit-elle, tu as refusé l'argent de maman Léo. Tu lui en veux. Tu te figures qu'elle a essayé de te mettre dans l'esprit de mauvaises idées. Elle n'est pas capable de cela, mon fils. Elle a voulu tout uniment couler un peu de plomb dans ta cervelle de linotte. L'appétit vient en mangeant, c'est certain. Elle t'en a dit peut-être un peu plus long qu'elle ne l'aurait résolu, mais elle ne t'en a pas trop dit. Résumé du président, la jeune fille t'aime, mais il y a un valet de carreau et le neuf de pique sur enjeu. Conclusion générale, veille au grain et tiens bien tes cartes, ou tu seras obligé, comme tu l'as dit sans y croire, de reprendre, soit demain, soit plus tard, ta feuille de route pour Marseille. Embrasse-moi et dis merci. Elle lui secoua la main avec une vigueur toute virile et l'attira presque de force dans ses bras. « Merci, maman, » dit Maurice, qui essaya de sourire. La dompteuse murmura, dans un baiser véritablement maternel, « Que compte-t-on faire ?» Au lieu de répondre, le jeune officier demanda, « À quelle heure cet inconnu et Valentine doivent-ils se rencontrer chez vous ?»«
À 4 heures de l'après-midi. »
« C'est bien, » répliqua Maurice, « je vais réfléchir comme vous me le conseillez. Je ne sais pas encore si je verrai Fleurette, si je lui parlerai. » Mais je sais que, le cas échéant, elle n'aura pas besoin d'un défenseur de hasard. Je serai là pour veiller sur elle.